Et il y a la Torah. Et ça n'a rien à voir. Ce qui fait que l'échec de l'identité juive, qu'on appelle l'assimilation, l'assimilation, ce n'est pas du tout une catégorie religieuse, c'est une catégorie nationale. On peut être un juif très pieux et complètement assimilé si on fait partie d'une autre nation, alors qu'il y a tout un éventail de religions. Par exemple, avec Napoléon, il y avait les Français catholiques, les Français protestants, les Français israélites. Maintenant, il y a les Français musulmans, d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça l'assimilation. Par exemple, vous avez la communauté de Francfort. C'est une communauté très orthodoxe, de Torah im Devecheret. Je vais vous épouvanter. C'était des gens très pieux et complètement assimilés. Assimilés parce qu'ils n'étaient plus hébreux, ils étaient allemands, de religion mosaïque. Mais mosaïque authentique. Cette histoire de la communauté de Francfort sera racontée un jour. Parce que c'est les descendants de la communauté de Francfort qui ont fondé toutes les institutions juives du monde religieux, dans le monde entier, Israël y compris. Et pourtant, c'était les juifs les plus assimilés à l'identité allemande. Quel était leur slogan ? Torah im Derecheret. Mais qu'est-ce que c'était Derecheret pour eux ? C'était la culture allemande. Est-ce que c'est clair ? Bon, beaucoup de leurs descendants ont changé radicalement, ils sont devenus sionistes. Mais la plupart de leurs descendants continuent à être assimilés. Je me rappelle, je ne sais plus lequel de mes maîtres m'avait cité ça, en fait c'est un de mes maîtres, c'est certain. Dans les années 30, lorsque les premiers juifs allemands ont été victimes du commencement du hitlérisme, du nazisme, et que certains d'entre eux sont venus en Israël, ce sont eux qui ont fondé Hedera, toutes les villes du nord, là. Naharia, une troisième. Tout ce coin-là. Il y avait des familles Chamim parmi eux. Mais la génération des pionniers qui sont arrivés n'a jamais pu apprendre l'hébreu. Ils continuent à parler l'allemand. Leurs enfants ont parlé l'hébreu. Mais alors, en arrivant dans le pays, ils ont dit « Galinu Beartsenu ». Nous avons été exilés dans notre pays. Et ils avaient le sentiment que leur culture, c'est la culture allemande. Et que, contraints et forcés à cause de Hitler, il fallait qu'ils fondent Naharia. Heureusement qu'ils l'ont fondé, d'ailleurs. Mais vous vous rappelez du film de Lanzmann, Quoi Israël ? Pourquoi Israël ? Ah, je vous l'ai raconté ?
Non, je l'ai vu.
Ah, tu l'as vu ? Eh bien, je vais le raconter pour les autres. Ça t'a frappé, hein ?
Ah oui.
Le groupe des fondateurs de l'université de Jérusalem étaient les Allemands. D'ailleurs, c'est encore. C'est le groupe le plus fort à l'université hébraïque. Et Scholem, tous ces gens-là. Et alors, ils racontaient leur histoire, et ils ont dit, et puis finalement, nous avons fondé l'université de Jérusalem. Mais il y avait un lapsus historique, l'université de Berlin. On les appelait les Berlingots, parce qu'il y avait les... Oui. Mais je me rappelle Berlin, et ils se sont repris, ils ont dit Jérusalem. Donc, ceci pour dire qu'il faudra faire un effort colossal pour comprendre ce que dit la Torah lorsque Dieu s'adresse à Israël et qu'il s'adresse à Israël comme un fiancé s'adresse à sa fiancée et que ce n'est pas du Midrash. Et nous avons en tout cas un Midrash, le Rav Chaim de Volodine, dans Nefesh Chaim, consacré un chapitre là-dessus, à propos d'un verset de Shir HaShirim. Où Dieu appelle Israël sa fille, son épouse, sa mère. Et il faut comprendre qu'il y a dans le Midrash. C'est-à-dire que le monde, c'est l'autre que Dieu. Et finalement, quel est le visage du monde où Dieu a reconnu mariage, et c'est comme ça que le prophète parle, c'est Israël. Alors, quand vous lisez les Hadodim, ne croyez pas que c'est de la poésie, c'est les Hadodim. C'est d'ailleurs une grande poésie dans les Hadodim. Mais c'est les Hadodim. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui nous est arrivé après 2000 ans d'exil, c'est qu'on croit qu'on est une parmi les communautés religieuses. Ça n'a rien à voir. Il y a des religions. Elles sont toutes respectables pour les goyim dont c'est la religion. Et puis, il y a la Torah et Israël. Et on peut comprendre le psalm de la Torah qu'à travers nos grands maîtres. Le Maharal, par exemple, parle pour notre temps. il nous aide à lire comme c'est écrit. Okay. Où Dieu dit, je vous ai fait sortir d'Égypte pour pouvoir résider parmi vous. Parce que c'est ça que j'attends depuis la création du monde. Okay. De pouvoir résider quelque part. Alors, prenez le livre de Devarim, qu'on lit ces versets que je vous ai indiqués. C'est le verset 14 du chapitre 10, c'est ça? Oui. Voilà, verset 14 du chapitre 10. Regardez. Et vous y êtes? Voilà ce qu'il y a derrière comme postulat de l'exposé du Maharal que j'ai commencé à vous interpréter. Hen l'Hashem Elokecha. Voilà ce que la Torah dit à Israël dans le livre de Devarim. Ainsi appartiennent à Hashem ton Dieu, à Shamaim ou Shema Shamaim, les cieux et les cieux des cieux, à Aretz Vechol Asherba, la terre et tout ce qu'elle renferme, l'universel absolu. Verset 15. Et ce n'est qu'en tes pères qu'il a eu désir, Hachem, les Ahavotam, de les aimer, et il a choisi dans leur postérité après eux, Bachem, à vous, Mikol Aramim Kayomazé, parmi tous les peuples, de tous les peuples, comme à ce jour. Voilà, c'est dit en clair dans ces versets. Okay, voyez le contraste. Et Moïse interpelle Israël. De qui je parle quand je parle de Dieu? De celui qui a créé les univers. Et c'est lui qui vous a choisi. Parce que vous êtes la descendance des patriarches. Alors voilà comment le Maharal relie à notre question de départ. Okay. Quel était l'objectif de la création du monde? C'est que Dieu a décidé qu'il préférait, mais je parle à posteriori, okay, qu'il préférait résider parmi les créatures d'en bas. Et alors, il a attendu que ce soit possible. Ça a été possible à la sortie d'Égypte. Je vais reprendre un schéma, parce que je vois que l'heure avance, qui résumera tout ça, mais je vous demande instamment d'étudier les textes qu'on vous a photocopiés. La prochaine fois qu'on a des textes à lire, ne me laissez pas faire des introductions. Ou alors on reste toute la nuit. Donc. Et alors, c'est ceci. Je vous rappelle ce qu'on a appris à propos du Shabbat en relation à la construction du Beth Amikdash. À la construction du temple et donc du Mishkan, c'est les sidrotes qu'on a vus il y a quelques semaines. C'est que, et là je reprends un schéma d'enseignement du Maharal. Le Maharal met en évidence un rythme de trois chiffres de la Torah. Les six jours du commencement, le septième jour et le huitième jour. Et voilà comment il explique. Les six jours du commencement, c'est les six jours de la création. Dieu a créé un monde, l'a façonné pendant six jours. Et pendant les six jours, il n'y avait pas d'homme. L'homme apparaît au sixième jour, quand le monde est suffisamment façonné pour être l'habitation de l'homme. Pendant ces six jours, c'est le premier récit de la Genèse, Dieu est seul souverain de son monde et il le façonne. En vue de quoi? En vue de le rendre habitable pour l'homme. Et puis alors commence le septième jour. Dès que l'homme apparaît dans le récit et dans le monde, Dieu se cache derrière l'apparence Elohim de la nature, Begamatria Teva, pour que l'homme développe son histoire. Et quel est l'objectif de son histoire? À son tour, l'homme, pendant le septième jour, doit faire du monde qu'il a reçu un temple. Un temple, c'est-à-dire quoi? Un lieu où Dieu et l'homme puissent coexister. Ce qui est l'objet de la création du monde. Vous voyez, dans le monde de Dieu, le monde des six jours, il n'y a pas d'homme. Dans le monde de l'homme, il n'y a pas de Dieu. Alors, il y a deux étapes de cette alliance. La première étape, c'est le récit de la création. Dieu a fait la part de son travail. Il a aménagé un monde pour qu'il soit habitable pour l'homme. Maintenant commence la partie de l'homme. Et l'homme doit le réaménager ce monde pour en faire un temple où Dieu puisse résider. Lorsque... Regardez les coïncidences du calendrier. C'est ce que vous lirez dans la paracha de Shmini, qui est la paracha du Shabbat d'après Pessah. Juste après Tzav, qui est celle de demain soir. Lorsque le monde est suffisamment façonné par l'homme à son tour pour pouvoir être résidence de Dieu, commence le huitième jour. Et le huitième jour, c'est le temps messianique. C'est-à-dire pendant six jours, Dieu seul, Le septième jour, Dieu caché, l'homme seul, apparemment. Le huitième jour, c'est quand l'homme a fini de construire le temple. Mais qu'est-ce que le temple? C'est le monde construit en temple. Alors, Dieu y réside, et l'homme et Dieu sont dans la même maison. C'est ça le Beth Amikdash. C'est chose impossible. Je veux dire comment, rappelez comment le Zohar explique ça. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de place pour l'homme. Dans le soleil, il n'y a pas de place pour une bougie. Il faut que la bougie soit très loin du soleil pour exister. Trop près, elle disparaît. C'est clair? Il faut que le rayon de soleil soit très loin pour exister. Trop près, il est embrasé. Et bien pour la même raison, mais inverse, dans le monde de l'homme, il n'y a pas de place pour Dieu. L'homme est naturellement athée. Parce que si Dieu apparaît, l'homme disparaît. C'est ce que les païens appellent l'extase. Ok? Non. Eh bien, alors voilà que l'homme et Dieu contractent alliance pour réaliser cette chose impensable, impossible, construire une maison où l'homme et Dieu puissent être ensemble. Le secret de la Torah, de la prophétie hébraïque, c'est que ce qui rend cela possible, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi le Maharal a cité, là où il y a sainteté, Dieu et l'homme peuvent être ensemble. Là où il n'y a pas de sainteté, eh bien Dieu se cache et l'homme est tout seul. Et oui, tous ces grands temples énormes, je pense au temple de l'Asie, ou aux cathédrales, si vous voulez, des choses énormes, des maisons que les goyim ont construites, et s'il n'y ait jamais rien passé dedans. Il suffit que le peuple d'Israël se construise un petit temple, et puis c'est là que ça se passe. Vous n'avez pas remarqué ça, okay? Une fois, sur un point de l'espace à Jérusalem, dans un point du temps, la sortie d'Égypte, sur un point de l'humanité, Israël, ça a réussi. Alors on a le modèle, on a l'expérience que ça finira par envahir la création tout entière. J'ai en tête le verset des psaumes, « Asherei yoshevei betecha »« Heureux ceux qui habitent dans ta maison ». Mais c'est le monde entier qui deviendra sa maison. Mais ça a commencé à ce moment-là. Voilà, je pourrais le dire de 70 manières différentes, mais c'est le même sujet que le Maharal veut expliquer. En quoi la sortie d'Égypte, c'est la définition de la foi. Je résume tout cela en deux phrases. Jusqu'à Abraham, les hommes savaient comme vérité de foi que le monde a un créateur. Les initiés, pas les païens, qui sont mis à adorer des forces secondes. Et à partir d'Abraham se prépare un peuple dans la sélection d'identité dans la descendance d'Abraham. Et lorsque ce peuple est préparé, Israël, à la sortie d'Égypte, alors ça devient vérité de réalité, d'expérience. On sait que c'est réel et pas seulement vrai que le monde a un créateur quand ce créateur intervient dans l'histoire. Et alors le Maharal explique, mais c'est ça qu'il attendait depuis la création. C'est-à-dire, c'est à la sortie d'Égypte que l'instant de la création prend son sens. Et c'est pourquoi vous avez toujours ces deux références parallèles, Zecher Yitziat Mitzrayim, Zecher le Maaseh Bereshit. D'une certaine manière, l'histoire du monde commence à la sortie d'Égypte. C'est là que tout ce qui s'est passé avant prend son sens. Alors, vous percevez toutes les dimensions de parenthèses qu'on pourrait ouvrir dans ce problème. Voilà, en tout cas, vous avez une introduction à ce texte. J'espère que ça vous permettra de l'étudier. Si jamais il y en a un qui le laisse dans la salle, on fera qu'Alhamira. Alors, passez un bon Pessah et à bientôt.